chers amis, bonjour et bienvenue dans votre chaîne de podcast « Un accent sur le nouveau leadership ». Je suis Keragir et aujourd'hui, nous allons partir en voyage dans une planète méconnue et tellement désirée par tous les dirigeants et leaders de ce monde, l'autonomisation des équipes. Le contexte va être suffisamment compliqué pour que celle-ci devienne une condition sine qua non de notre succès. Mais comment la mettre en place? Tous les plus fervents défenseurs de la transformation managériale ne juraient que par elle. Mais c'est justement par elle que beaucoup de ces théories de la transformation managériale se sont retrouvées à bout de souffle. Car l'autonomie des équipes, on en parle depuis des lustres. Il n'a pas fallu attendre les nouvelles écoles du management et du leadership pour traiter de la question d'autonomie. Depuis toujours, cette question est en première ligne. Et pourquoi encore et toujours aujourd'hui souffre-t-on autant pour arriver à ce Saint Graal ? Voilà de quoi il va être question aujourd'hui dans ce nouvel épisode de votre chaîne de podcast, un accent sur le nouveau leadership. Depuis maintenant à peu près une dizaine d'années, il y a un mouvement de fond, un courant de fond, je le dirais même, sur... Ça m'a même fait maintenant une bonne dizaine. Depuis une bonne dizaine d'années maintenant, nous avons un courant de fond que, au début, on avait appelé le courant de l'entreprise libérée, qui aujourd'hui ne porte plus tellement ce terme-là, parce qu'il était une sorte de fourre-tout qui crée plus de distension que d'union, si vous voulez. Au début, tout le monde était hyper content, mais à un moment donné, tout ce qui rentrait dans cette logique de transformation managériale pour remettre l'humain au centre de l'entreprise, voire pour remettre en plus l'entreprise au service de la vie, toutes ces personnes-là, à un moment donné de leur parcours, ne se reconnaissaient plus dans le terme entreprise libérée, qui en fin de compte était une illustration parfois trop extrême de toutes les nuances qui peuvent apparaître dans cette mouvance humaniste de l'entreprise. Et donc, tous ceux qui se lançaient dans ces transformations managériales aboutissaient à des résultats, retrouvaient leur zone de confort et voyaient que pour arriver à ce que l'on définissait comme l'entreprise libérée, il y avait encore plein d'étapes qu'ils n'avaient plus envie de transiter. Et du coup, ça faisait que ces personnes-là disaient « je ne suis pas une entreprise libérée ». Du coup, aujourd'hui, cette mouvance parle de mettre l'humain au centre de l'entreprise. Appelez-la la nouvelle entreprise. Appelez-la comme vous voulez, peu importe. Les termes aujourd'hui font légion, mais c'est pas ça qui est important. Ce qui est important aujourd'hui, c'est que l'un des fondamentaux de cette école-là était justement la confiance. Et on entendait cette phrase très portée et colportée par des personnes comme Isaac Goetz. Très porté et colporté par des personnes comme Isaac Goetz ou Alexandre Gérard, qui ont joué un rôle très important dans la divulgation de ces nouvelles approches, et qui disaient « la confiance si la délégation n'exclut pas le contrôle, la confiance, elle, exclut le contrôle ». Et donc, c'était sous couvert de cette notion de confiance, de transparence, de droit à l'erreur, que l'on laissait la place aux personnes de s'auto-réguler pour rentrer dans un espace qui mènerait in fine dans leur propre épanouissement à une logique d'autonomie. Mais pas que, aussi une logique de performance. C'était un peu le raccourci que l'on présentait pour montrer toutes les vertus de cette nouvelle mouvance dans le monde du leadership. Pourtant, une fois qu'on se lançait, ça ne marchait pas toujours. Et c'était le propre argument qui était donné pour justifier ces nouvelles approches qui était utilisé pour les invalider. Car on se retrouvait avec autant d'entreprises qui avaient de bons résultats que d'entreprises qui n'avaient pas de bons résultats. Et c'est évident, puisque en mettant l'humain au centre, on met la variable la plus complexe qui soit dans le monde de l'entreprise. Du coup, aujourd'hui, pourquoi allons-nous parler de cette notion d'autonomisation à travers l'angle de mettre l'humain au centre de l'entreprise? Eh bien, parce qu'aujourd'hui, 10 ans plus tard, avec le recul, on voit qu'il existe beaucoup de bonnes pratiques très concrètes, simples à mettre en place, qui peuvent amener un contexte d'autonomisation des équipes, que vous soyez en transformation managériale ou pas. Mais aussi, on a suffisamment de recul pour voir quelles sont les choses qui marchent, les choses qui ne marchent pas, et où sont les ajustements que l'on peut les ajustements que l'on peut faire pour maximiser ce saint graal de tout leader qui est d'avoir des équipes autonomes. Alors, si vous voulez atteindre ce saint graal, il faut savoir d'emblée qu'il y a des conditions sine qua non pour y arriver. Sinon, c'est un jeu de roulette russe. On s'est retrouvé souvent dans ces contextes d'entreprises libérées et autres à dire que les fondamentaux même de l'entreprise libérée et assimilée étaient la confiance, la transparence et le droit à l'erreur. À partir de là, on délègue la confiance, on délègue une autonomie. Comme la confiance exclut le contrôle, on laisse faire et on voit comment ça se passe. Et souvent, ce n'est pas aussi simple que ça. Car pour commencer à donner la confiance à quelqu'un, il y a deux variables à travers lesquelles vous ne pouvez pas passer. Deux variables que vous devez passer par un tamis, mais on en parlera tout à l'heure. La première, le niveau. Est-ce que la personne a les compétences requises et la capacité d'arriver au bout de la tâche que vous lui avez donnée à gérer en autonomie? Première question. La deuxième, qui est beaucoup plus périlleuse, car la première, elle est relativement simple à mesurer et à cadrer. La deuxième est un peu plus périlleuse, car il s'agit d'une notion d'abord et avant tout d'éducation, d'ancrage et de posture. Et la responsabilité, qui est le deuxième point, celle-ci, elle peut vous donner un peu plus de fil à retordre. Car c'est une vision extrêmement subjective de la place qu'un individu a dans son monde. Et il s'avère aujourd'hui que cette notion de responsabilité s'effrite de plus en plus face aux intérêts individuels. Du coup, oui, quelqu'un est responsable jusqu'à une certaine limite, celle de son intérêt, celle de son confort. Hélas, c'est la société qui a évolué de la sorte et nous devons naviguer avec ces deux questions-là en première ligne, et accepter que l'humain est devenu ce qu'il est devenu. On ne fera pas le procès de la société dans laquelle nous nous trouvons, ni celui des nouvelles générations. C'est un fait, À partir de là, niveau et responsabilité. Deux conditions sine qua non pour que vous puissiez mettre en place un contexte d'autonomisation. Par contre, s'il n'y a pas de cadre, ça a été l'un des grands ennemis des approches de transformation managériale et surtout de l'école de l'entreprise libérée, qui beaucoup ont cru comprendre que liberté voulait dire agir sans cadre. Bien que tous les défenseurs qui ont réussi dans ce processus de transformation vous diront toujours que non, justement, le contraire. La liberté est un cadre et il est nécessaire de le respecter pour que celle-ci soit possible. La liberté n'est pas l'anarchie dans le sens que l'on comprend anarchie, c'est-à-dire le foutoir total et absolu. Non, il s'agit d'un cadre respecté, sécurisant, mais à l'intérieur duquel on peut étendre nos ailes et voler le plus loin que l'on veut. Mais ce cadre-là existe. Nous sommes là donc avec les trois conditions sine qua non pour que quelqu'un puisse agir en autonomie. Maintenant, la question est comment pouvez-vous faire pour vous assurer que ces trois conditions sine qua non sont bien appliquées et que l'autonomie a un maximum de chances de réussir dans votre entreprise. Parlons de niveau. La première chose que vous allez devoir comprendre et intégrer en tant que leader, c'est qu'il y a une énorme différence entre niveau et potentiel. Combien d'entre nous avons-nous embauché quelqu'un parce que cette personne avait un énorme potentiel. Et il s'est avéré par la suite qu'elle n'avait pas le niveau du potentiel que nous avons vu en elle. Et toutes nos frustrations sont dues à quoi ? Au delta entre les promesses que nous nous sommes faites avec ce potentiel et la réalité de ce que nous avons obtenu avec le niveau qui était exprimé. Donc, grande leçon que j'ai prise dans ma carrière, ne pas mélanger niveau et potentiel. Tu as le niveau que tu as, certes, tu as peut-être un potentiel énorme et quand tu mets l'humain au centre de l'entreprise pour favoriser son épanouissement, on va lui donner les possibilités, le contexte, le cadre, les outils, les moyens pour que cette personne puisse exprimer ce potentiel. Mais à un moment donné, et là, le niveau qu'est là, un point, c'est tout. C'est pragmatique, c'est ici, c'est maintenant. Ce n'est pas une promesse, c'est ce que nous avons entre les mains. Beaucoup trop de leaders humanistes aujourd'hui tombe dans le piège de s'enfermer dans la promesse d'un potentiel et de parier sur une personne et d'accompagner une personne et de lui donner 10 milliards d'opportunités parce qu'elle a un potentiel. Très en dépit du fait que les résultats qu'elle obtient ne sont pas toujours au niveau. Une fois que nous avons dit ça, nous nous retrouvons avec la notion de niveau qui, elle, reste somme toute relativement pragmatique puisqu'elle nous permet de mesurer assez clairement le niveau d'une personne. Mais avant de mesurer son niveau, il sera nécessaire que vous mesuriez l'ampleur des objectifs et des compétences requises pour atteindre ces objectifs-là. Car une chose, c'est dire tu peux agir en autonomie, mais dans quel contexte puis-je agir en autonomie ? Le cadre va venir poser des réponses à tout ça. Mais déjà, dans quel contexte de travail veux-tu que je sois autonome pour obtenir quel résultat ? Donc, l'ampleur des objectifs définira une liste de compétences plus ou moins grande. Donc, avant de donner l'autonomie à quelqu'un, il serait intéressant de lister les compétences requises. Et non pas les compétences directes, mais aussi les compétences indirectes. Je m'explique. Imaginez que vous avez, par exemple, un développeur dans votre entreprise. Vous faites du travail d'informatique, etc., etc. Et que vous avez un projet. Ce projet est un travail de création de code. Donc, vous donnez ce projet-là à la personne en question et la personne va commencer à faire du code. Et vous vous dites, il a les compétences requises pour faire le code. Ça, ce sont les compétences directes. C'est-à-dire qu'il y a une programmation à faire pour répondre aux besoins d'un client. Un point, c'est tout. La plupart s'arrêtent là. Sauf que, il y a des compétences indirectes qui sont requises pour que ce travail aille à bon terme. D'abord, il y a d'autres personnes dans l'équipe qui sont concernées par son travail. Peut-être qu'ils sont plusieurs développeurs à travailler ensemble. Est-ce qu'il a les compétences interpersonnelles et intrapersonnelles pour assurer le bon fonctionnement de cette dynamique de groupe ? Ça, c'est un exemple. Un autre exemple, c'est qu'il y a aussi des implications par rapport au client, par exemple. Est-ce qu'il va savoir faire un suivi de projet de qualité qui intègre le client dans les différentes phases d'approbation ou de bon à tirer du projet ? Est-ce qu'il a les compétences requises pour faire face aux difficultés des bugs qui s'affichent, voire même de la critique à certains moments qui peuvent venir de la part du client ? Est-ce qu'il arrive à gérer ses émotions ? Est-ce qu'il arrive à gérer sa colère, sa frustration ? Est-ce qu'il sait se sortir d'un cul-de-sac quand il se retrouve avec un bug que l'on n'arrive pas à résoudre ? Tout ça, ce sont des compétences indirectes qui ne sont pas dans la fiche de poste, mais qui sont nécessaires pour bien faire un travail. Est-ce que vous avez listé tout cet ensemble de compétences avant de donner l'autonomie à une personne sur cet objectif-là ? Parce qu'ensuite, une fois que vous avez toutes ces compétences-là, vous allez pouvoir mesurer concrètement le niveau de la personne. Et l'idéal, alors ce n'est pas toujours possible, l'idéal est de pouvoir tester la personne avant de la lancer dans un contexte d'autonomisation. Vous avez une liste de compétences requises pour agir en autonomie, vous allez tester la personne sur chacune d'entre elles pour voir comment elle agit, comment elle fonctionne. Ceci, aujourd'hui, dans les temps qui courent et dans la réalité temporelle dans laquelle nous sommes inscrits, où tu vas extrêmement vite et on a du temps pour rien, ne serait-ce que pour respirer, ceci est souvent un vœu pieux. Mais Si jamais vous avez l'espace suffisant, la masse salariale et la politique RH adaptée, ceci serait quelque chose d'extrêmement bénéfique car vous prenez quelqu'un par la main et vous testez son niveau à travers différentes opérations qui vous permettent de positionner la personne par rapport aux objectifs que vous entendez d'elle. Et là, c'est une mesure très très claire. Si la mesure de son niveau n'est pas à la hauteur du potentiel requis pour arriver à l'objectif, vous adaptez vos ambitions, vous complétez l'équipe ou tout simplement vous vous dites que ce n'est peut-être pas la bonne personne. Mais vous avez une vision extrêmement pragmatique du niveau de cette personne par rapport à l'autonomie que vous voulez lui donner dans ce contexte-là. On parlera tout à l'heure de la politique RH qui accompagne toutes ces questions-là, mais il y a une façon de faire qui peut vous permettre de découvrir toutes ces choses-là dans un moment où juridiquement vous êtes sain et sauf. Mais j'en parlerai tout à l'heure. Car maintenant, il va être question, non pas de niveau, mais de responsabilité. Et là, ça peut se corser un petit peu plus. Pourquoi ça risque de se corser? Parce que la notion de responsabilité, c'est quelque chose que l'on nous a inculqué. Moi, je dis toujours, la meilleure école de management que j'ai eue de ma vie, c'était ma grand-mère. C'était la Mona. Alors, Mona, ça veut dire mamie en basque. Elle nous a appris les bases les plus fondamentales du savoir-vivre ensemble. C'est ce qui m'a amené à faire un management de bon sens et humain parce que ma mamie m'a appris à vivre en communauté. L'immense majorité des décisions managériales justes quand il s'agit de mettre l'humain à l'entreprise, quand je dis juste, c'est qu'il fonctionne bien, sont juste des politiques de bon sens. Mais quelle éducation avez-vous eu par rapport à ces notions de bon sens? Car la responsabilité requiert à un certain moment un certain degré de sacrifice. Car à un moment, rester responsable peut exiger de sacrifier un certain confort individuel. Et aujourd'hui, les personnes que vous avez en face sont-elles prêtes à faire ce geste-là? C'est là que ça devient beaucoup plus touchy de toucher à la notion de responsabilité, car il y a une éducation, mais aussi un rapport à l'autre et au monde que chacun porte. Alors, comment pouvoir embrasser cette notion de responsabilité? Eh bien, c'est de la faire rentrer dans votre culture d'entreprise et dans votre style de vie. Il faut que cette dernière soit un critère de différenciation et un critère de définition de l'appartenance à un groupe. Si tu es responsable, tu sauras te différencier de l'immense majorité des gens sur le marché du travail, mais surtout tu sauras trouver des raisons pour appartenir à ce groupe-là et être reconnu à l'intérieur de ce groupe-là. La responsabilité devient alors une mesure de valeur de l'individu. Elle peut même être une valeur au sein de la culture de l'entreprise. Mais avant tout et surtout, est une mesure de la valeur d'un individu se fait à travers la notion de responsabilité. C'est-à-dire qu'elle est défendue et portée par absolument tout le monde en tant que règle non négociable. Dans cette unité humaine qui est cette entreprise ou ce service ou cette business unit, la responsabilité fait partie de notre style de vie, fait partie de notre culture, nous nous reconnaissons à travers elle et elle est non négociable. Si tu n'es pas responsable, tu n'appartiens pas au groupe, tu n'es pas reconnu et tu n'as rien à faire ici. Ces messages forts, fermes, tranchants parfois, qui sont posés dès que vous arrivez dans une entreprise, forge clairement le comportement que vous allez avoir. Et ceci peut permettre d'éduquer certaines personnes qui peuvent venir avec cette défaillance d'éducation le jour où elles sont embauchées parce que tout simplement elles ont grandi dans un environnement beaucoup plus ou individualiste ou pas conscient de l'importance de la notion de responsabilité quand on agit en groupe. Et quand on est là-dedans, il y a une notion culturelle qui moi, me touche particulièrement à cœur parce que je suis basque, vous l'aurez entendu avec mon accent à couper au couteau, et c'est le « itza itz ». Il y a un certain nombre de valeurs profondément ancrées dans la culture basque et « itza itz » est l'une d'entre elles. « Itza itz », c'est le respect de la parole donnée. La parole est la parole. Une fois que tu as donné la parole, C'est ce que tu as de plus important. C'est pour ça que nous sommes ici dans une culture millénaire de transmission orale où absolument rien n'avait besoin d'être écrit. Quand un accord est fait entre Basques, cet accord, il est presque signé par le sang. Il est signé par l'honneur, il est signé par cette profonde racine culturelle que tu as qui dit que ta valeur en tant qu'être humain est corrélée à la valeur du respect de ta parole. Et le respect de la parole est directement corrélé avec la notion de responsabilité. Mais nous ne sommes là que à deux niveaux des trois conditions sine qua non. Il nous reste maintenant l'importance du cadre. Et nous sommes là dans le contexte le plus classique dans lequel vient s'engouffrer l'immense majorité des problèmes que nous avons au quotidien en entreprise et qui sont dus à un manque de définition du cadre. Alors attention, ne pensez pas que là, je suis en train de vous inviter à faire un nouveau précis du droit du travail dans votre entreprise avec 10 000 pages, avec des lois, des apartés, des... Bref, non, pas du tout. Nous sommes en train de juste définir le contexte dans lequel nous allons pouvoir agir en totale autonomie. Ce cadre-là n'est pas un cadre limitant pour minimiser le risque d'erreur. Là, on serait en train de détruire la capacité d'autonomie et d'action des personnes. Nous sommes dans un cadre qui est le plus large possible pour que la personne puisse étendre ses ailes et voler jusqu'aux objectifs à l'intérieur de ce cadre-là, mais suffisamment délimité pour qu'elle ne se mette pas en danger, elle, mais qu'elle ne mette pas en danger non plus ni l'entreprise ni le groupe. Donc ça, c'est la vertu d'un cadre. En fait, c'est comme quand vous allez voir dans une falaise, vous êtes à Étretat ou vous êtes à Biarritz, par exemple. Biarritz, il y a des vues magnifiques quand vous êtes au phare de Biarritz. Vous voyez la grande plage depuis les hauts. Mais vous allez voir la grande plage un jour de tempête ou un jour de grand beau. À chaque fois, vous avez des paysages absolument à couper le souffle. Mais quand vous êtes face à la falaise, vous avez quoi? Vous avez juste une barrière. Elle vous permet de vous approcher le plus près de ce spectacle magnifique tout en ayant la certitude que vous n'allez pas tomber en bas. Eh bien, un cadre, c'est pareil, c'est juste cette barrière qui vous empêche de tomber. Mais derrière, une fois que vous êtes dans l'enceinte du cadre de Biarritz, vous pouvez vous promener, garer votre voiture, courir, sauter, aller d'un côté, aller de l'autre. Bref, tout est parfaitement délimité pour que vous ne tombiez pas par-dessus bord, que vous retrouviez en bas dans les rochers. Bien, un cadre, c'est exactement ça. Mais si on s'arrêtait là, on a compris, ah c'est super, il va falloir qu'on pose le cadre. Mais nous sommes là, encore une fois, dans ce genre de mot valise, le cadre, ou de défonçage de portes ouvertes, ou de yaka faucon. C'est quoi exactement un cadre? Quelles sont les variables qui définissent un bon cadre bien défini? Et excusez-moi la redondance. Eh bien, elles sont de l'ordre de 4. Et je vais vous les donner ici et maintenant. Et c'est peut-être l'un des plus beaux cadeaux que vous aurez cette semaine. Comprendre enfin comment on pose un cadre. Car si l'une de ces 4 variables venait à manquer dans la définition d'un projet, dans la définition d'un objectif, l'interprétation que les parties prenantes feront de cette zone manquante entraînera une zone de flou dans laquelle vous allez vous engouffrer pour avoir potentiellement tous les problèmes. Pardon. Pourquoi? Parce que les personnes que vous avez en face, elles ne sont pas forcément de mauvaise volonté. Elles ont juste compris cette zone non définie à leur façon, à travers leur perspective, à travers leur compréhension du problème, et bien évidemment de tout ce qui les arrange autour de ça. Ensuite, chemin faisant, chacun vaque à ses occupations avec bonne volonté, et à un moment donné, on a un bug. Dans la zone de flou que nous n'avions pas définie, le problème émerge. Et là, le gros des conflits que nous avons, c'est quoi? Ce sont des oppositions d'opinion. Chacun va débattre sur sa propre interprétation de la zone de flou que vous avez laissée. Non, mais c'était comme ça, on a dit ça, donc, point de suspension. Et chacun va défendre ce donc-là. Sauf que le problème ayant émergé, les donc ne sont pas compatibles entre eux. Et c'est là que vous avez les frustrations. Car maintenant, il va falloir comprendre la logique de tout un chacun, comprendre où est-ce que l'on s'est planté, et ensuite venir poser un peu de lumière dans cette zone d'ombre. C'est un temps fou, une énergie folle, et Dieu sait qu'on a meilleure chose à faire que de perdre du temps avec ça. Je suis sûr que vos frustrations sont nombreuses dans le contexte que je suis en train de vous décrire. Du coup, pour éviter ce genre de problème, et je vous dis, c'est l'immense majorité des problèmes dans l'entreprise, sont dus à un défaut de cadre, ou sinon à un cadre mal posé. Donc, 4 variables qui influencent le cadre. 3, plus une quatrième qui est transversale, c'est-à-dire qu'elle touche les 3 autres pour qu'elle puisse être mise en place. D'abord, quels sont les enjeux? Et là, vous pouvez vous amuser à devenir un virtuose de la réponse à cette question, car le niveau le plus basique d'un enjeu, c'est un indicateur. Voilà, c'est un enjeu répond à la question pourquoi. Pourquoi doit-on atteindre cet objectif dans lequel tu vas agir en autonomie? Voilà l'indicateur. Si on prend l'exemple du développeur de tout à l'heure, eh bien, on a vendu un contrat à 50 000 euros, nous avons une deadline pour telle date, et pourquoi nous faisons ça? Parce que c'est l'un de nos principaux clients et que ce client a besoin du rendu de notre travail pour tel jour. Voilà, des indicateurs clairs, du volume de charge que tu vas avoir à faire, pour quand tu vas le faire, et quelles sont les implications d'un travail bien fait pour notre entreprise et pour notre client. Voilà, ça c'est le niveau le plus basique qui existe au niveau des enjeux. Mais vous pouvez l'amener beaucoup plus haut, jusqu'à une vision, une raison d'être, un sens superlatif, au service de quoi est ce projet-là. Et si vous voulez en savoir plus sur les notions de pourquoi, je vous invite à découvrir toute la série d'épisodes dans cette chaîne de podcast que j'ai faite sur la notion du sens. Je vous assure, vous ne serez pas déçus. Ce n'était pas le moment de mettre un peu de musique, mais bon, quand même, il fallait respirer un petit peu, ça faisait un moment que je parlais, mais nous étions encore et toujours dans la troisième variable, définir le cadre, et nous nous sommes arrêtés aux enjeux. Deuxième variable, les règles, qui sont de deux ordres. Les règles de fonctionnement et les règles non négociables. Les règles de fonctionnement ne sont pas forcément des règles négociables. Hein. À un instant T, toutes les règles sont négociables. Point, ce sont des règles. Sauf que les règles de fonctionnement, elles vont évoluer avec l'entreprise. Vous allez avoir des règles de fonctionnement quand vous êtes 10 au sein de l'entreprise qui ne seront plus du tout les mêmes que si vous êtes 200. Donc, les règles de fonctionnement évoluent avec l'entreprise. Les règles non négociables, elles restent des règles non négociables. Et la caractéristique de la règle non négociable, c'est qu'elle est éliminatoire. Si tu ne la respectes pas, tu ne fais pas partie de ce groupe-là. Désormais, tu es à l'extérieur de ce groupe-là. Exemple de règle non négociable, le respect de la loi. Exemple de règle non négociable, tu payes tes impôts. Exemple de règle non négociable, le respect des conditions de sécurité. Dès le moment où quelqu'un ne respecte pas ces règles-là, il est automatiquement évincé du groupe, automatiquement, éliminé. Donc, une règle non négociable est inscrite dans le marbre et se poursuit ad vitam aeternam, car ce n'est pas une règle de fonctionnement. On peut avoir, par contre, des règles non négociables qui sont de l'ordre aussi du fonctionnement, mais qui viennent intégrer, comme je le décrivais tout à l'heure, une culture, un style de vie ou des valeurs. Et c'est en ce sens-là que je vous ai parlé de la règle non négociable rattachée à la responsabilité. Mais une fois que vous avez traité les enjeux, que vous avez traité les règles, il vous reste encore à traiter les relations. Et c'est comment les personnes interagissent avec elles. Qui, avec qui, pour qui et comment. Toutes ces notions-là passent dans 99% des cas, à la trappe complètement. On va donner à notre développeur toute la liste des tâches qu'il a à faire pour bien programmer son site, mais on va jamais lui poser le cadre de comment va-t-il interagir avec le client, avec le directeur artistique, avec le département marketing, avec ses autres collègues dans le département. Bref, toutes ces choses-là, on les laisse un peu au petit bonheur la chance. Et nous n'avons jamais été éduqués à être dans une dynamique de groupe. On l'a appris sur le tas. Eh bien, c'est un autre jeu de roulette russe. La meilleure chose que vous avez à faire, c'est pouvoir définir le cadre des relations. Toutes ces zones de flou qui peuvent exister dans le croisement de deux fiches de poste qui s'influencent. Alors que le développeur, lui, il va voir sa fiche de poste très claire. Lui, c'est il faut qu'il fasse du code. Il va cracher du code en longueur de journée. Le reste, alors là, si le code qu'il définit n'est pas, par exemple, user-friendly, comme disent les Américains, s'il n'a pas une logique centrée utilisateur, le développeur, il s'en fout. Le développeur, c'est une vision ingénierie. On lui a demandé que ça marche et j'ai dit ça marche. Après, qu'il faut que ça marche et que ce soit beau, alors là, ça lui passe mais à 10 000 par-dessus la tête. Pourtant, son travail va venir influencer le travail du département UX ou du département design qui va dire « Mais non, comment a-t-il pu faire ça? Mais il ne faut pas faire comme ça. » Et ils vont s'engueuler. Pourquoi? Parce que les cadres des relations n'ont pas été définis correctement. Donc là, nous sommes à la troisième variable de l'importance du cadre. Et il nous reste ensuite celle que je vous ai dit qui est transversale et qui est le soutien. C'est-à-dire tout ce que vous allez mettre en place pour que les enjeux, les règles et les relations soient possibles. Et souvent, cette ligne-là, elle peut faire un peu mal. Parce qu'elle commence par quoi? Les moyens mis en œuvre. Quels sont les moyens que vous mettez à disposition pour que enjeux, règles et relations soient possibles? Des moyens temps, des moyens humains, des moyens financiers, des moyens matériels, des moyens de pédagogiques et de connaissances, etc., etc., etc. Qu'est-ce que la personne a entre ses mains pour pouvoir respecter ce cadre et atteindre les objectifs en autonomie? Et je dis que souvent ça fait mal parce que dans beaucoup trop d'entreprises, on a de plein beaux projets, c'est génial, mais par contre le soutien, zéro. C'est-à-dire on me fait une couche de mille feuilles pour arriver à des résultats, par contre t'as pas d'argent, t'as pas de moyens, t'as pas de temps, mais il faut que tu le fasses. C'est la douloureuse. Et oui, et pourtant, avec les temps qui courent et les temps qui nous viennent dessus, souvent nous allons nous retrouver dans cette situation, ce qui va nous obliger soit à craquer en burn-out, soit sinon à prendre conscience dans un total pragmatisme que, voilà, on ne peut faire que ce que l'on peut faire. Et on sera capable de pousser, mais à un moment donné, cette analyse du soutien et des moyens que nous avons nous permettra un certain pragmatisme pour aller chercher la résilience là où elle se trouve réellement. Mais je continue. Car le soutien, il est non seulement défini par les moyens, mais par deux autres variables. Et qui, celles-ci, seront particulièrement importantes à partir de septembre, l'encouragement et les récompenses. Comment encouragez-vous les personnes? Et là, je vous fais une petite parenthèse. Le prochain épisode sera un angle très novateur, très différent, qui met l'humain au centre, qui parle du cœur et avec le cœur, et qui permet de maximiser les résultats que vous allez pouvoir atteindre avec vos équipes. Et accrochez-vous parce que c'est un peu provocateur, les 5 langages de l'amour en leadership. Wow. Si jamais ça vous interpelle, parlez avec le cœur, mais atteindre des résultats probants et déterminants, abonnez-vous à cette chaîne de podcast, car vous ne manquerez pas d'être surpris et de trouver plein de pépites qui pourraient vous intéresser. Hop! Dit cela, je ferme la parenthèse publicitaire et on était dans l'encouragement et les récompenses. Avec cela, nous avons clôturé les 4 variables qui définissent l'importance du cadre, le cadre lui-même étant la 3e variable des conditions sine qua non pour assurer un travail en totale autonomie. Les 2 autres étant le niveau et la responsabilité. Avec tout ça, maintenant, il y a quelque chose qui doit forcément accompagner tout ce que je vous ai décrit maintenant. Et c'est une politique RH adaptée. Alors, tout d'abord, l'importance du cadre est quelque chose qui est établi dès le départ. Et quand on parle dès le départ, ça veut dire dès l'entretien. Si le cadre fait partie de votre culture, de votre style de vie, s'il est le déterminant des critères d'appartenance et de différenciation, si c'est une mesure de la valeur, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, il est nécessaire que dès le moment où vous allez faire un entretien d'embauche avec quelqu'un, que vous fassiez comprendre cela très clairement. D'abord à travers des questions, pour pouvoir mesurer si la personne a les compétences et le niveau de responsabilité suffisant pour pouvoir faire partie de votre entreprise, mais aussi pour poser clairement avec un acte fondateur, avant même que la personne n'appartienne à l'entreprise, le fait de dire « si on te choisit, ce sera à travers ces critères-là ». Et c'est dans le rabâchage, excusez-moi le terme, et la répétition permanente qu'une culture vient s'instaurer chez quelqu'un, qu'un style de vie commence à être parfaitement incarné. Et ça commence dès l'entretien d'embauche. Imaginons maintenant que votre développeur, de l'exemple de tout à l'heure, a passé l'entretien d'embauche avec brio et que vous l'avez embauché. Vous avez maintenant une parenthèse qui est celle de la période d'essai. C'est une parenthèse juridique qui vous donne le droit de tester la personne et au bout de cette parenthèse-là, de lui dire ça le fait ou ça ne le fait pas. Eh bien, c'est à ce moment-là que vous devez mettre toutes les chances de votre côté pour comprendre quelle est sa compétence, quel est son niveau, quel est son potentiel, mais aussi toutes ces choses-là qui vont faire que cette personne sera un bon employé de façon durable et épanouissante pour le groupe et pour l'entreprise et ses projets. Et pendant cette parenthèse-là, si vous voulez maximiser ces chances-là, il faut que votre politique RH prépare et organise un accompagnement des nouveaux. Une logique de tutorat pendant la période d'essai, ou avec des logiques de parrain ou autre, vous allez définir les étapes qu'un nouveau va devoir franchir pour répondre à certains objectifs le long de cette période d'essai qui vous permettent, vous, de dire « oui, on est en train de parier sur le bon poulain ». De façon à ce que, aussi, ça vous permette de dire que ben, peut-être que ce n'était pas la bonne personne que nous croyons et vous allez vous éviter plein de déboires si vous êtes capable de dire cela avant la fin de la période d'essai. Sauf que jamais on fait ce genre de choses. Et on se retrouve le plus souvent avec des périodes d'essai qui se passent super bien. Eh bien, pourquoi ? Parce que la personne, elle veut son poste. Et que si elle connaît ses zones de vulnérabilité, tout ça, elle sait parfaitement bien se déguiser pendant 2 mois, 3 mois, peut-être même 6 mois. Mais si vous structurez une politique d'accompagnement dans laquelle vous allez exposer la personne à certaines situations, les chances qu'elle puisse se déguiser se réduisent pratiquement à néant. Ainsi, vous allez pouvoir poser les bases de votre cadre et tester comment la personne évolue à l'intérieur de ce cadre-là. Donc, une politique RH de tutorat et d'accompagnement est une politique extrêmement puissante dans la création d'équipes réellement autonomes et performantes. Mais ceci pousse encore plus loin, car là, je suis en train de focaliser ce tutorat sur une seule thématique. Mais un accompagnement de nouveau, un mentoring, des parrainages, appelez-le comme vous voulez, pendant la période d'essai, intègre aussi bien d'autres notions tout aussi importantes que l'autonomie qui devront être prises en compte dans ce cadre d'accompagnement que vous allez mettre en place pendant la période d'essai. Ainsi, quand vous commencez à travailler le cadre de la performance et de la responsabilité, vous vous retrouvez face à un énorme défi de posture qui ne va pas manquer de secouer votre cocotier. Car c'est le propre de tout leader qui aime mettre l'humain au centre de l'entreprise, qu'il parle avec les tripes, qu'il parle avec le cœur et qu'il parle avec le respect de l'humain. Et ça, c'est des conditions sine qua non. Sauf que, on apprend souvent à la dure qu'il y a une limite entre bienveillance et fermeté, que l'on a tendance à oublier parce qu'on ne sait plus faire la différence entre bienveillance, couardise et mollesse. Et là, on va s'expliquer et on va parler vrai. La bienveillance, quand on met l'humain au centre de l'entreprise, c'est savoir respecter l'autre. La fermeté, quand on met l'humain au centre de l'entreprise, c'est savoir se respecter soi. Et si l'un joue au détriment de l'autre, l'équilibre ne fonctionne plus. Du coup, être bienveillant requiert aussi d'être ferme. Car la notion de responsabilité maintenant sort du cadre du projet, elle rentre dans le cadre des relations humaines et des relations à soi-même. Car dans des relations de leadership ou hiérarchique, il y a des transferts de responsabilités qui se font qui peuvent infantiliser les individus. Et en infantilisant l'individu, ce que vous faites, vous lui enlevez le pouvoir de sa propre responsabilité sur sa propre vie. Et c'est là que se trouve tout le piège. C'est là aussi que vient s'exprimer la fermeté, car nous sommes dans une culture extrêmement pyramidale qui fait que souvent, les personnes, quand elles arrivent à l'entreprise, elles prétendent que certaines responsabilités qui sont les leurs tombent sur vos épaules. Mais l'inverse est vrai aussi. Du fait que vous êtes l'employeur, vous prétendez très rapidement que certaines responsabilités qui sont les vôtres sont entre les mains des personnes que vous embauchez, du simple fait que vous les avez payées. Hélas, ça ne fonctionne pas comme ça. Du coup, dans l'atteinte de résultats, chaque personne a des responsabilités qui atteignent sa propre vie et son propre chemin. Et aucun leader ne peut s'alourdir de la responsabilité de parcourir le chemin à la place de quelqu'un d'autre. Le mieux qu'il puisse faire, c'est uniquement favoriser le contexte et l'environnement pour que ce chemin soit le plus fluide possible. Mais chaque pas doit être fait par chaque personne. Comprendre cette notion-là est essentiel pour que vous, en tant que leader humaniste, vous sortez du triangle de Karpman qui dit que soit vous sombrez dans le piège du sauveur, soit vous sombrez dans le piège de la victime, soit vous sombrez dans le piège du bourreau. Et dans le triangle de Karpman, que l'on retrouve très souvent chez les leaders humanistes, on va voir l'un des trois qui prédomine. Donc souvent le sauveur ou la victime. Le sauveur est de loin le plus dominant. Qui dit le sauveur ? C'est celui qui est là pour sauver la terre, pour sauver le monde, pour contribuer au changement, pour un monde meilleur. On va sauver la terre entière de tous les maux qui pèsent sur elle. Mots M-A-U-X, bien sûr, mais aussi tous les noms d'oiseaux et mots M-O-T-S qui pourrissent l'image que nous avons de notre société. Et là, c'est le sauveur. Mais le sauveur qui essaye de sauver le monde, il le fait aussi avec ses salariés. Je vais le sauver, il a eu une vie difficile, il a eu un parcours difficile. Oh, il n'est pas bien aujourd'hui, je suis là pour toi. Je suis le sauveur. Et à un moment donné, d'être le sauveur, la personne que nous avons en face, qui nous a rien demandé d'ailleurs, va agir. ne va pas agir dans le sens des attentes que nous avons. Car nous venons de sauver cette personne-là en attente d'une certaine reconnaissance ou en attente de certains résultats ou en attente de quelque chose. Le sauveur a toujours une attente. Et quand ces attentes-là ne sont pas remplies, le sauveur souffre énormément. Et c'est là qu'il bascule des deux autres côtés. Soit il va commencer à faire le calimero, t'as pas été gentil avec moi, tu m'aimes plus. Soit sinon, il va rentrer dans le mode du bourreau. Il dit, ah bon? C'est comme ça que tu le prends avec tout ce que j'ai fait? Eh bien, tu en prends plein la gueule, mon coco. Et bam! Et tu passes directement dans la liste noire. Ça, c'est le triangle de Karpman dans lequel tombent très souvent les leaders humanistes. Pour éviter de tomber dans ce piège-là, chacun doit prendre conscience de la responsabilité qu'il a envers lui-même. Du coup, le leader arrête d'être un sauveur et il devient un mentor. Il commence à favoriser le contexte, comme je disais, et l'environnement pour que la personne qu'il a à côté puisse avancer le plus facilement sur le chemin qu'ensemble, on aurait pu définir qu'elle va traverser ou tout simplement sur le chemin qu'elle veut traverser dans sa vie. C'est très différent car le sauveur va prendre le bonhomme sur son dos et va marcher à sa place. Alors que le mentor va tout simplement montrer le chemin, décrire comment il peut être traversé et va observer comment la personne fait son premier pas, son deuxième et son troisième. Et si la personne ne fait pas de premier pas, c'est là que rentre la fermeté et qui fait faire au mentor un demi-tour et tourner le dos. Il n'a pas de temps à perdre avec quelqu'un qui ne veut pas céder lui-même. Du coup, nous sommes là dans la notion de fermeté et de bienveillance. Mais derrière la notion de bienveillance, très présente chez les leaders humanistes, il y a deux faces cachées qui, sous couvert de bienveillance, ont bonne mine. La couardise et la mollesse. La couardise est celle qui nous empêche de dire. On n'ose pas, on ne veut pas blesser, on ne veut pas froisser. En fin de compte, voilà, on veut pas faire mal. Et comme on ne veut pas faire mal, on se déguise un leader gentil et bienveillant. Mais en réalité, ce qui se cache derrière cette bienveillance, c'est que vous n'avez pas le courage de dire certaines choses. Et ça, tôt ou tard, finit par se retourner contre vous. De deux façons. Soit le non-dit, parce qu'il est non-dit, il n'a pas pu être intégré, et donc vous avez les effets collatéraux de cela. Soit sinon, ce qui est bien pire, sous couvert de bienveillance, vous avez avalé vos couleuvres. Vous avez mis une chape de béton. Et un jour, 6 ans plus tard, elles vont ressortir, redoubler de violence. Et c'est là que, à la personne que vous avez en face, vous allez lui faire la liste de toutes les choses qu'elle vous a faites dans les 6 dernières années. Et quand tu as fait ci, alors là là là. Et la fois que tu as fait ça, là 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 là. Et la fois que tu as fait ci, ni 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 ni. Et moi ça, et moi ci, et moi ça. Et l'autre, il t'écoute, il est là. Mais putain, mais ça fait 10 ans qu'il accumule des couches, qu'il n'a jamais rien dit. Pourquoi ? Il n'avait pas le courage. Et donc, sous couvert de bienveillance, il dit « Non, mais ça va aller, non, non, mais je passe, je fais avec, non, c'est cool, je suis un leader bienveillant. » Et bim, ça se retourne contre vous. Mais ensuite, nous avons la mollesse. Celle-là, elle est encore plus pernicieuse. Car la mollesse, c'est ce truc qui te ratatine et qui fait que tu vas sourire. Le mec, il vient, il t'insulte à la figure, et tu lui souris. Parce que tu n'as pas la capacité d'avoir cette fermeté qui s'impose et de dire « Bon, mais non, t'es passé, tu es allé trop loin. » Mettre en application toutes ces règles doit se faire avec un bon équilibre entre bienveillance et fermeté. Mais attention à ne pas confondre la bienveillance avec une couardise que vous ne savez pas adresser ou tout simplement avec une mollesse qui ne vous donne pas la force ni la fermeté nécessaire pour être juste quand vous êtes bienveillant et non pas quelqu'un qui se tire vers le bas. Car le moment est venu de réinventer le leadership, et ce n'est pas en restant dans le cadre que nous allons le faire.